Alors, merci Julien, toute son équipe. C'est très beau chant qui nous inspire, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous prépare pour le ciel. Devant nos têtes, Jésus va venir. Quelle belle espérance. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles encore une fois et trouver l'épître de Paul aux Romains. Et quelle épître merveilleuse, quelle doctrine merveilleuse de la justification par la foi seule en Jésus-Christ. Et quelle bonne nouvelle pour le pécheur coupable, condamné devant un Dieu saint et juste. Et quel grand chapitre, Romains chapitre 8, qui a pour le thème principal la vie en Jésus-Christ et par l'Esprit. Ce matin, nous sommes arrivés aux versets 14, 15 et 16. Et j'ai intitulé le message ce matin, « Adoptés par amour comme des fils de Dieu ». Et nous avons dit que le Saint-Esprit est l'acteur principal dans ce chapitre. Il prend l'œuvre de Jésus-Christ qui a accompli à la croix et il va l'appliquer aux croyants pour que cette œuvre maintenant devienne une réalité dans sa vie. Dans d'autres mots, pour que le croyant puisse maintenant progresser dans la sanctification. Et Romains chapitre 8 commence avec ces belles paroles. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelle grande bénédiction qui découle de cette doctrine de la justification par la foi. Et Paul, il va prendre le temps, il n'est pas pressé, il va prendre le temps maintenant de nous expliquer pourquoi il n'en est aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous avons déjà considéré, je vous rafraîchis la mémoire, que par le Saint-Esprit, le croyant maintenant, nous avons vu ça dans Romains chapitre 8 au verset 1, est affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons vu aussi par le Saint-Esprit, il est capable maintenant d'accomplir la justice de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui est capable maintenant de vivre une vie et accomplir la justice de la loi que Dieu exigeait. C'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il est animé maintenant d'une nouvelle nature qui s'affectionne aux choses de l'Esprit. Les deux dernières semaines, nous avons vu que le chrétien, maintenant, il a été armé pour la victoire, va progresser dans la sanctification. Ce matin, nous voulons voir qu'il est assuré de son adoption comme fils de Dieu. Et nous avons aussi deux autres thèmes dans ce chapitre, approuvé pour la gloire, et recevoir une aide précieuse dans ses prières. Et quelle œuvre magnifique, quelle grâce. Donner aux pécheurs coupables, c'est ce que nous étions autrefois. Et qu'est-ce que nous méritions? Seulement la mort et l'enfer. Et Dieu nous donne toutes ces choses par sa grâce. Alors lisons notre texte pour ce matin, et nous allons commencer au verset 12 pour le contexte de ce que nous allons voir ce matin. Alors, on lit au verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Verset 14, notre texte pour ce matin. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, nous voulons considérer trois aspects de notre statut. Nous sommes des fils de Dieu qui prouvent qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous. Alors, tout d'abord, pas de condamnation pour ceux qui sont, premièrement, conduits par l'Esprit de Dieu. Ou si vous voulez, aucune condamnation pour ceux qui sont des fils de Dieu. C'est ça, c'est notre premier point. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 14. Et là, nous lisons, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce qu'on pourrait avancer, s'il vous plaît? Et nous venons de dire qu'il n'y a et il n'y aura jamais aucune condamnation pour de tels individus. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en regardant ce texte, verset 14, nous voulons poser deux questions. Dans un premier temps, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait cela pour nous conduire? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que conduit par l'Esprit est la preuve que nous sommes fils de Dieu? Le texte dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais comment et pourquoi est-ce que le fait que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu prouve que nous sommes effectivement les fils de Dieu? Deux bonnes questions auxquelles il faut répondre si nous voulons bien comprendre la signification de ce texte. Alors, dans un premier temps, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Est-ce que nous entendons des voix ou nous voyons des lumières ou quoi que ce soit? Ah oui, l'Esprit est là, puis je vais le suivre. Vous savez, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, et même il y a des sermons tout entiers qui ont été prêchés justement sur ce thème. Mais ce matin, nous voulons rester dans le contexte de Romains chapitre 8, 14, et on ne va pas aller sur une tangente. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au propos du verset 14? Il commence par le mot « car ». Qui veut dire quoi? Pourquoi est-ce que le verset 14 est là? C'est parce qu'il suit le 13? Ça, c'est vrai. Mais il y a une autre raison pour cela. C'est parce que le verset 14 est lié étroitement au verset 13. Et c'est l'aboutissement de ce qui a été dit précédemment. Alors, si vous voulez comprendre le verset 14, il faut retourner dans le verset 13. Parce que 14 dit « car ». Il y a une raison maintenant. Et il nous donne, justement, plus d'informations. Alors, qu'est-ce que nous avons au verset 13? Nous avons vu cela la semaine dernière, que le croyant tue le péché par le Saint-Esprit. Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors le croyant tue le péché par le Saint-Esprit. Et maintenant, au verset 14, nous avons ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alors, je vous pose une simple question. Quand est-ce que le croyant tue le péché? La réponse, c'est quand il est conduit par le Saint-Esprit. Le texte dit cela. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alors, quand est-ce que le croyant tue le péché? Mais c'est quand il est conduit par l'Esprit. Et ça devrait être évident. Parce que si vous êtes conduit par la chair, vous savez qu'est-ce qui arrive. Vous ne tuerez jamais le péché. La chair ne vous conduira jamais à tuer le péché. Alors, c'est conduit par le Saint-Esprit que vous allez tuer le péché. Autre question. Quand est-ce que le croyant est conduit par l'Esprit? Quand est-ce que le croyant est conduit par l'Esprit? La réponse est quand il est sous le contrôle. Quand il est sous le contrôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut le conduire. Il faut qu'il soit sous le contrôle du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. Et j'appuie cela par un texte que nous trouvons dans Éphésiens 5, 18. Pas besoin d'y tourner, mais l'apôtre Paul fait le parallèle. Il parle du vin. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? Parce que celui qui s'enivre du vin est contrôlé par le vin. Si vous avez jamais vu un ivrogne, là, vous savez de quoi je parle. Il est contrôlé par le vin. Et le vin le conduit. Alors, il fait un contraste. Il dit ceci, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Soyez non pas sous le contrôle du vin, mais sous le contrôle de l'esprit, alors conduit par l'esprit. Alors, si on revient à notre question que je vous ai posée, quand est-ce que le croyant est conduit par l'esprit? Mais la réponse est évidente, il est conduit par l'esprit quand il est sous le contrôle de l'esprit. Et quand il est sous le contrôle de l'esprit, c'est parce qu'il est rempli d'esprit. Quand il est rempli d'esprit, l'esprit le contrôle. Et quand il est rempli d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le péché. Et ça, c'est ce que le verset 14 nous dit. Ceux qui sont conduits par l'esprit, ils tuent le péché. Conduit par l'esprit, il va tuer le péché. Et j'écris ceci, vous ne serez jamais impliqué sérieusement et activement dans la guerre contre le péché si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, contrôlé par l'esprit et conduit par l'esprit. C'est la seule façon. C'est la seule manière. Et vous savez que le temps du verbe au verset 14, c'est un participe présent à la voix passive. Je vous donne un petit cours de français ce matin. Mais on pourrait traduire cela comme suit. Tous ceux qui sont en train de se faire conduire par l'esprit. Ce n'est pas une chose de temps à autre. Ce n'est pas une chose qui arrive aujourd'hui, puis dans 2-3 mois, ou bien dans 2-3 années. C'est d'être continuellement, journalièrement, conduit par l'Esprit, rempli d'Esprit, sous le contrôle de l'Esprit. Et bien aimé, ça c'est la vie chrétienne normale. Vous voulez tuer le péché, progresser dans la sanctification, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Il faut être conduit par l'Esprit, il faut être contrôlé par l'Esprit. Et plus que vous êtes conduit par l'Esprit, puisque vous êtes rempli d'Esprit, plus que vous êtes conduit par l'Esprit, plus vous allez progresser dans la sanctification, parce que plus vous allez tuer le péché. Et la question qu'on pourrait se poser, Dieu condamnera-t-il ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit, qui sont en train de livrer une guerre sans merci contre le péché? Mais vous avez la réponse, jamais de la Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit dans le contexte de Romains chapitre 8, verset 14? Il nous conduit dans une guerre contre le péché pour tuer le péché. Ça, c'est les 13 et 14 pris ensemble. Deuxième question que je vous ai posée. Pourquoi est-ce que conduit par l'Esprit maintenant est une preuve que nous sommes des fils de Dieu? C'est ce que le texte dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui tuent le péché, son fils de Dieu. C'est votre texte au verset 14. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Alors, pour comprendre ce texte, il faut tout d'abord comprendre la signification du mot « fils de Dieu ». C'est un terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les anges sont appelés « fils de Dieu ». Nous avons aussi dans Luc chapitre 3, verset 38, on va donner une généalogie. Et on va commencer, puis on va descendre, jusqu'à on arrive à Enos, fils de Seth. Et en Seth, c'était le fils d'Adam. Et Adam, fils de Dieu. Alors ça, c'est un contexte où est-ce qu'on voit Adam, il est nommé comme fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on sait à propos d'Adam? On sait qu'il a été créé, selon Genèse 1, 26, qu'on dira dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Alors, Adam, fils de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hébreux 1, 3, pas besoin d'y tourner, mais on parle d'un autre fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Le fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et qu'est-ce que nous avons là encore? Le fils de Dieu, Jésus-Christ, qui ressemble à son Père. Et vous allez bien comprendre l'expression, parce qu'ici je veux vous faire comprendre que fils de Dieu dans ce contexte veut dire ressemblance. Le Seigneur Jésus-Christ va utiliser ce terme quand il va parler aux pharisiens. Il dit, vous allez courir la terre et la mer pour faire une prosélyte. Et après, vous avez fait une fils de la géhenne, deux fois pire que vous autres. Mais il ne parle pas ici d'un fils qui a été engendré. Mais il dit, cette personne-là, par la conduite, justement, ressemble justement à ce qu'on trouverait à l'enfer. Et dans Juges aussi, nous avons un terme aussi semblable. On parle des hommes qui étaient des fils de Bélial. Ce n'étaient pas des gens que Bélial avait engendrés, mais à cause de la conduite, on les appelait justement comme tels. Alors, le terme ici, fils de Dieu, parle d'une ressemblance. Une ressemblance. Et si on revient à notre question que je vous ai posée, pourquoi maintenant ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu? C'est parce que quand nous sommes conduits par l'Esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons le péché. Et quand nous tuons le péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous progressons dans la sanctification. Et quand nous progressons dans la sanctification, qu'est-ce qui arrive? 1 Pierre 1,16 devient une réalité dans notre vie. Le texte nous dit ceci, « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint. » Et quand ce texte vient une réalité dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous et moi, nous sommes en train de ressembler à Dieu. Et on pourrait dire de nous, tel père, tel fils. Ça, c'est le verset 14. Ce qui tue le péché avance dans la sanctification, progresse dans la sainteté et ressemble à l'image de Dieu qui est trois fois saint. Et quelle grande vérité! Nous ressemblons le plus à Dieu quand nous lui ressemblons dans sa sainteté. Et on pourrait se poser une question, mais pourquoi en est-il ainsi? Mais c'est parce que, vous savez, il y a des attributs de Dieu qu'on ne pouvait jamais atteindre. Son omnipotence, mais oublie ça, là, Dieu est omnipotent. Qui parmi nous puisse prétendre qu'on aurait le pouvoir que Dieu possède? Quand Dieu a dit que la lumière fut et la lumière soit, c'est incroyable. Ou bien son omniscience ne peut jamais, jamais, jamais mesurer jusqu'à la connaissance parfaite de Dieu. Sa sagesse infinie, et j'en passe. Mais il y a d'autres attributs de Dieu qu'on peut justement imiter. J'ai nommé sa sainteté, il y a aussi son amour. Nous sommes exhortés même d'aimer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On peut imiter cela. Sa justice, sa miséricorde, un Dieu qui est rempli de miséricorde pour l'être humain. Mais vous savez, parmi tous ces attributs, il y a un qui brille le plus. Et c'est sa sainteté. Parce que tous les autres vont trouver leur éclat dans la sainteté de Dieu. Son amour, c'est quoi? Son amour qui est saint. Sa justice est sainte. Sa miséricorde est sainte. Et même quand Dieu déchaîne sa colère, c'est une colère qui est sainte. Et quelle grâce pour nous ce matin. Ça me touche tellement. Quel honneur que Dieu nous accorde ce matin de lui ressembler dans son attribut le plus glorieux. le plus éclatant, sa sainteté. Fils de Dieu, une ressemblance remarquable quand nous sommes en train d'être conduits par l'Esprit, remplis d'Esprit, quand nous sommes en train de tuer le péché. Vous savez, quand cela nous caractérise, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est le jardin d'Éden retrouvé. Notre image est retrouvée. C.S. Lewis a dit ceci dans son livre, Le Grand Divorce. Il dépeint le péché non seulement comme n'atteignant pas la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, 23. On dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est vrai. On n'arrive pas, on n'atteint pas la gloire de Dieu. Mais C.S. Lewis va dire ceci, le péché peut être vu comme n'atteignant pas la gloire de l'homme. D'être en quelque sorte moins qu'un homme, moins que l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Il y a un nommé Stanley J. Ward, qui est directeur de l'école Brook Hill, a dit ceci, quand j'ai lu cela, et je me suis rendu compte que le péché me rendait moins qu'humain. Le péché est devenu beaucoup plus sérieux à mes yeux et j'étais motivé à le confesser, à le combattre. Et qu'en est-il pour nous ce matin? Peut-on dire de vous et de moi, fils de Dieu? Non parce qu'on va le dire, mais parce que par notre conduite, la façon dont nous luttons contre le péché, la victoire que nous sommes en train de reporter contre le péché, nous progressons dans la sainteté, la sanctification, et nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont conduits par l'Esprit. Deuxièmement, aucune condamnation pour ceux qui sont non seulement conduits par l'Esprit, qui ressemblent à Dieu par imitation, mais il n'y a aussi aucune condamnation pour les fils de Dieu qui sont consolés par l'Esprit et qui se rapprochent de Dieu dans l'intimité. Et là, on va regarder notre texte maintenant au verset 15. Et le texte nous dit ceci, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Quel beau texte. Tellement encourageant, tellement plein de consolation. Vous remarquez le petit mot « mais » ? Nous sommes en présence d'un contraste ici dans le verset 15. Nous avons un avant et un après. Et si vous regardez le texte, avant, vous étiez esclave, après, vous êtes fils. Quel beau contraste. Avant, un esprit de servitude, maintenant, un esprit d'adoption. Avant, la crainte, et maintenant, l'amour. Avant la loi, maintenant la grâce. En regardant ce texte, on va se poser une question. Qui aurait eu un esprit de servitude? Et le mot dans le texte, dans l'original, veut dire slave, en anglais, là, esclave. Doulos. Alors, qui aurait eu un esprit, justement, de servitude? Et la réponse, c'est un esclave. Un esclave, il y a un esprit de servitude. Et ça, c'est, Paul veut ici souligner la condition du pécheur, son avant. Alors, si vous voulez, avant de devenir un fils de Dieu. Et là, ici, nous avons deux textes parallèles qui sont vraiment importants. Pas besoin de les tourner, mais je vais vous les citer. Qui se trouve dans Galates 3 et un autre qui se trouve dans Galates chapitre 4. Dans le contexte, Paul est en train d'expliquer à l'église aux Galates que la condition de ceux qui étaient sous la loi, mais qui un jour croiraient en Jésus-Christ par la foi pour devenir fils de Dieu. Alors dans Galates chapitre 3 et 4, nous avons ce contexte. Les gens qui étaient sous la loi, mais qui un jour pourraient dire, par la foi en Jésus-Christ, vous allez devenir fils de Dieu. Et là, il dit ceci, Galates 4, verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, dans d'autres mots, le futur héritier de Dieu, son héritier, avant de devenir héritier de Dieu, est vu comme un esclave, sous la loi, la condition du pécheur avant qu'il mette sa foi en Jésus-Christ. Et un autre texte dans Galates 3, 23 va nous dire ceci, « Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Alors, avant qu'on croie en Jésus-Christ, alors qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, Paul va dire à ces personnes, « Ceux qui étaient sous la loi, vous êtes enfermés, vous étiez comme des prisonniers sous la surveillance de la loi. » Le prisonnier est comme un geôlier. Et là, vous êtes là, enfermé sous sa garde, et qu'est-ce que vous attendez? Le jugement et la condamnation à cause de la sainteté de Dieu. Et ça, c'est, nous avons vu cela dans Romains 3, 23, le salaire, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23, et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous mettez ça ensemble, esclaves, prisonnier sous la loi qui pointe le doigt et qui dit « Vous êtes coupable, vous n'êtes pas capable d'accomplir la loi de Dieu, la justice de Dieu. » Mais qu'est-ce que ça engendre dans le cœur de celui qui est coupable? La crainte, la peur, jugement, jugé, condamné. La sainteté de Dieu est là dans la loi de Dieu. Le pécheur ici qui ne peut pas l'accomplir. Sa seule réaction, c'est la peur et la crainte. Et nous avons un épisode dans la vie des enfants d'Israël qui nous illustre de façon très graphique, justement, cette réaction. Je vais vous lire le texte dans Hébreux 12, 18. Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va dire ceci. « Vous ne vous êtes pas approchés des montagnes qu'on ne pouvait toucher. » Il nous ramène dans le contexte quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Là, les enfants d'Israël étaient là. La montagne qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Écoutez bien, tel que ceux qui les entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tremblant. » Et ça, c'est la réaction tout à fait juste du pécheur sous la loi, condamné, coupable, dans la présence d'un Dieu trois fois saint, un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Ça, c'est l'avant. Mais, nous avons dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, des belles paroles de grâce. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que, quoi? Afin que nous recevions l'adoption. Recevions l'adoption. L'adoption pour devenir, quoi, les fils de Dieu. Et quel revirement de la situation. Et encore une fois, ce thème de l'adoption, c'est un beau thème. On pourrait aussi prendre le temps de développer une étude au complet sur l'adoption, mais ce n'est pas notre thème principal ce matin et on n'a pas le temps de parler de cela. On veut rester dans le contexte, mais je aimerais vous dire juste ceci, que cette adoption qui fait que le pécheur repentant celui qui était esclave, sous la loi, qui était pris avec un esprit de crainte devant la sainteté de Dieu, est maintenant un fils légitime que Dieu va introduire dans sa famille, et que cette adoption-là est motivée par l'amour. 1 Jean 3:1, le disciple que Jésus aimait va dire ceci: voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et quel contraste! Fils de Dieu, au lieu d'être un esclave du péché. Une relation d'amour sous la grâce, au lieu d'une relation de peur sous la loi. Et notre beau texte nous qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et vous savez, nous avons ici une proximité, une intimité avec Dieu, au lieu d'une relation de séparation, d'éloignement et d'indifférence. Et quelle tendresse dans ce geste qu'on parle l'esprit, par l'esprit. Cet esprit d'adoption, nous approchant de Dieu comme des petits-enfants. Et nous lui disons ces paroles qui sont tellement douces à ses oreilles. Abba, Père, cher papa. En anglais, Daddy. Et vous savez, cela me rappelle encore une fois, peut-être vous êtes en train d'y penser aussi, à notre Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le moment le plus difficile, le plus angoissant de sa vie, devant l'épreuve de la croix, devant la souffrance immense qui l'attendait, il a trouvé force, courage et consolation justement dans ses paroles. Vous oubliez le texte, Marc 14, 34. Jésus a dit ceci: restez ici et veillez, mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria et disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez, Israël, à Sinaï, sous la loi, a dit à Dieu: ne me parle plus. On ne peut pas supporter tes paroles. J'ai peur de toi. Ce matin, dans sa grâce, Dieu nous dit, à vous et à moi: parlez-moi. Appelez-moi papa. Je vous aime. Et vous savez que... Je suis conscient que pour quelques-uns de vous, ça pourrait être difficile. Surtout si vous avez connu un père qui était absent ou distant, même abusif. Si vous vivez une relation brisée, même en ce moment, avec votre propre père, qui vous a oublié ou bien vous vous sentez aussi rejeté. Et là, quand cela arrive, on reste avec une estime de soi qui n'est pas correcte, parce que très souvent, notre relation avec Dieu est calquée sur notre relation avec notre Père. Notre Père céleste, notre relation avec notre Père céleste, très souvent est calquée sur notre relation avec une Père terrestre. Et si on a eu la difficulté dans cette relation avec une Père terrestre, on va avoir la difficulté avec notre relation avec notre Père céleste. J'aimerais vous encourager de s'approcher de Dieu dans l'intimité d'un enfant avec son papa. Et j'aimerais vous donner des raisons pour cela. Dans un premier temps, Dieu vous accorde un privilège. Un privilège de l'appeler papa, qui accorde même pas aux anges, les saints anges, même pas appeler Dieu papa. Vous le pouvez le faire. Ça, c'est un privilège. Deuxièmement, et j'aimerais, si vous avez une difficulté, oui, parce que vous avez la difficulté à percevoir Dieu comme un Dieu qui est tendre et qui vous aime, mais pensez à ce texte ici. Dieu vous a adopté. Et l'adoption, ça implique quoi? Un choix parmi tant d'autres. Quand Dieu est allé à l'orphelinat et puis il a vu tant de monde, il a dit, celui-là, je le veux. Alors, il vous a choisi. Il y a un texte qui nous dit dans Éphésiens 1:4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour vous adopter, ce n'était pas juste des belles paroles. Pour quitter, justement, si on va prendre l'illustration, l'orphelinat avec l'enfant, il fallait payer un prix. Et le prix, c'était très élevé. Dieu a sacrifié son fils pour que vous soyez son enfant adoptif. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et en payant ce prix, Dieu vraiment a démontré qu'il vous aime. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dernièrement, Dieu prend sa job, comme on dit en bon québécois, de père très au sérieux. C'est un père qui est présent, toujours. C'est un père qui est proche. Et c'est un père qui est paternel. Et ce matin, même si vous vous sentez loin, ou bien si vous êtes tombé dans le péché, vous ne sentez pas digne. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue, il était allé dans le pays lointain, il a gaspillé tout son argent en vivant dans la débauche. Et à un moment donné, il s'est rentré en lui-même, puis il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père et je dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Tellement il était accablé par ses péchés. Ce matin, si tout semble noir dans votre vie, Dieu vous dit, parlez-moi. Appelez-moi papa. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est rempli de compassion. Encore une fois, dans Luc 15, quand le fils revient habillé, un guenille, santé comme, vous savez quoi? Parce qu'il était avec des cochons. Le texte nous dit que le père l'a vu de loin. Et son cœur fut ému de compassion. Là, il va courir vers son fils, il va jeter sur son cou, il va l'embrasser. Et Psaume 103 nous dit ceci, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Approchez-vous de moi, Dieu vous dit ce matin. Appelez-moi papa. Consolé par l'Esprit. Et finalement, je termine avec ceci. Aucune condamnation pour les fils de Dieu qui sont non seulement conduits par l'Esprit et consolés par l'Esprit, mais aussi dans le texte, nous avons verset 16, qui sont confirmés par l'Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quelle rassurance! À propos de notre identité, qui nous sommes de vrais enfants de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui dit cela. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Vous savez, il y a trois manières qu'on peut établir un lien de parenté. Si vous avez un enfant, très souvent on va dire, « Hey, c'est votre fils ou votre fille, elle ou il ou elle vous ressemble tellement. » C'est ce que nous avons vu. Ça, c'était le verset 14, « Ressemblance ». Ou bien vous pouvez, vous aurez pu adopter un enfant, et là vous avez des papiers légaux en bonne et due forme pour prouver que justement, oui, cet enfant est à vous. Et ça, c'était le verset 15. Mais nous avons une troisième manière. Si un enfant ne vous ressemble pas, et ce n'est pas un enfant adoptif, vous pouvez lui dire, mais il est quand même mon enfant parce qu'il possède, et ça c'est la preuve la plus sûre au monde, il possède mon ADN. Sûr qu'il est à moi, il possède mon ADN. Alors ce matin, si vous avez cru en Jésus-Christ par la foi, il est votre sauveur personnel, vous êtes fils de Dieu par ressemblance, nous avons vu. Vous êtes fils de Dieu par adoption, mais vous êtes aussi fils de Dieu par la nouvelle naissance. Vous êtes enfant de Dieu, vous possédez de l'ADN de Dieu. Et j'aimerais rapidement vous donner ce que la Bible va dire à propos de cette nouvelle naissance. Pour vous montrer, oui, que c'est vrai, que nous possédons l'ADN de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. Jean 1, 12, pas besoin d'y tourner, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en parlant de la parole qui a été faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, desquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Alors, l'enfant de Dieu que vous êtes ce matin, vous êtes né de Dieu, vous possédez l'ADN de Dieu. Mais ce n'est pas assez. Le Seigneur va nous donner encore d'autres preuves que nous sommes ses enfants. Dans 1 Jean 2, 28, 29, Jean va dire ceci, « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Vous savez qu'il est juste. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » En parlant de Jésus-Christ. Alors, Dieu nous va donner une deuxième preuve que nous sommes ses enfants légitimes, nés de Dieu, mais nous sommes aussi nés de Jésus-Christ. Troisièmement, Jean 3, 5, Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas encore convaincu? Vous êtes nés de Dieu, vous êtes nés de Jésus-Christ. Troisièmement, vous êtes nés de l'Esprit. Et un dernier, Jacques 1, 18, il nous a engendrés. De quoi est-ce qu'il parle? Des enfants. Selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alors, enfants de Dieu dans tous les sens. Nés de Dieu, nés de Christ, nés de l'Esprit, nés à travers la parole, on a l'ADN de Dieu. Et qu'est-ce que le texte nous dit ce matin? Ça, c'est notre identité par la nouvelle naissance, mais nous avons aussi notre identité par expérience. Et ce n'est pas une expérience mythique, intérieure, mais c'est une confirmation dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le texte nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment ça fonctionne dans le pratico-pratique? Je vous donne quelques exemples. La conviction du péché. Le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde. Quand il viendra, le consolateur, il convaincra le monde. Et je peux ajouter aussi, il convaincra le croyant du péché. Et vous savez, et moi je sais aussi quand j'ai péché. Je pense ici à David, quand il a persisté, puis il a dit à Joab, va dénombrer le peuple. Et Joab a dit que l'Éternel rend le peuple encore plus nombreux. Pourquoi faire cela? Il a insisté. Et le texte nous dit que David sentit battre son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai commis un grand péché contre l'Éternel. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui confirme que vraiment nous sommes enfants de Dieu. Et quand on pêche, ça nous attriste et on le sait. Deuxièmement, une autre façon, c'est par la faim et la soif de la parole de Dieu. Pierre va dire aux chrétiens, comme les enfants nouveau-nés, encore une fois, le contexte est là, désirez le lait spirituel et pur par, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, comme enfant de Dieu, on a soif et faim de la parole de Dieu. On aime lire la parole de Dieu. Troisièmement, on a un désir de ressembler à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne ce désir. L'apôtre Paul, il l'avait dans Philippiens 3, 10, il va dire ceci. « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant quoi? Conforme à lui. » C'était son désir le plus cher, de ressembler à Jésus. Et on le chante aussi parfois, de ressembler Jésus. C'est là mon désir suprême. D'où ça vient? Ça vient de l'Esprit Saint dans nos cœurs. À l'amour pratique, authentique pour les frères. Que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui fait quoi? Aime aussi son frère. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. 1 Jean 3, 18-19. De pas seulement aimer en langue et en parole, mais en action et en vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Dans le dernier, et le désir de communiquer la bonne nouvelle aux autres. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, Dieu nous a donné justement, nous a réconciliés avec lui et nous a donné la parole de la réconciliation. Et ça, c'est justement qui est dans le cœur de tout croyant authentique. Le désir de voir d'autres venir au Seigneur Jésus-Christ et de goûter justement que le Seigneur est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette doctrine? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Question qu'on peut poser, comme on pose en anglais, WWJD, What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place si Jésus était ici? Puis là, il avait entendu cette merveilleuse doctrine. Aucune condamnation, nous sommes des fils de Dieu. Nous possédons son ADN, le Saint-Esprit nous habite. Wow! Mais vous savez, la réponse est dans Luc 15. Je ne prendrai pas le temps d'y retourner. Mais dans le texte de Luc 15, vous avez le Père, vous avez le Fils, et vous avez le Saint-Esprit et vous avez les anges. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et cette doctrine-là ce matin, Dieu vous a donné cela dans Romains chapitre 8 pour remplir nos cœurs de joie. Vous savez, quelqu'un peut dire, mais comment est-ce que ça va m'aider? Dans le pratico-pratique, demain au travail ou à l'école, comment ça va m'aider? Mais je vous dis une chose, si vous êtes un chrétien joyeux, vous serez une meilleure père, une meilleure mère, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur témoin de la grâce de Dieu dans votre vie. Vous savez, les pharisiens, les autres, là, on le disait d'eux autres, ils portaient des robes longues, ils disaient de longues prières, il y avait de la face longue. Et très souvent, on est comme cela, nous, des chrétiens. Mais ce matin, Dieu nous dit, comme au ciel, tellement de joie, parce que il y a des pécheurs qui sont maintenant pas condamnés à cause de la grâce de Dieu. Et que le Seigneur nous remplit de sa grâce et de sa joie, justement du fait qu'aucune condamnation. Et ce matin, si vous ne connaissez pas le Christ, mais cette joie aussi est à votre portée. Dans Luc chapitre 16, il y a un homme qui a posé la question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et le texte nous dit, Paul et Barnabas, Paul et Silas ont dit plutôt, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et cet homme y a cru. Et après, le texte nous dit, il se réjouit avec toute sa famille en ce qu'il avait cru en Dieu. Encore, la joie, la joie, la joie, la joie. Et c'est là que le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens joyeux qui va aller et qui va faire une, un impact et une marque dans ce monde. Parce que le monde va voir ce que nous avons et ça va aller justement, ça va les toucher. On va prier. Seigneur, merci pour ce beau texte. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous as adoptés dans ta famille. Et Seigneur, la gloire qui nous attend et tu as payé un prix élevé. Et nous sommes chers à tes yeux. Alors, fortifie-nous par ces vérités, que ça puisse transformer nos vies, bouleverser même nos vies. Et que nous puissions être de ceux qui marchent dans ce monde la tête haute, sachant que nous avons un Père au ciel qui est en contrôle, qui nous aime, malgré quoi que ce soit. Seigneur, s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, donne-leur aussi cette joie de te connaître. Donne-leur la joie de leur salut. Et maintenant, on te prie de nous séparer avec ta bénédiction. On le demande au nom de Jésus. Amen.